C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP.
Le film « La très grande évasion », actuellement en salle de cinéma, présente la mécanique de l'évasion fiscale. C'est un documentaire de vulgarisation de Yannick Kergoat, qui écrit avec Denis Robert, qui explique les mécanismes et démontre comment l'évasion fiscale accélère la croissance des inégalités. Nous avons rencontré le réalisateur Yannick Kergoat pendant le festival de films à Sarlat qui a eu lieu le novembre dernier. Selon le réalisateur, l'évasion fiscale, c'est une question qui nous concerne tous et qui est centrale dans le monde d'aujourd'hui, notamment quand on veut traiter les injustices sociales et économiques.
La question de l'évasion fiscale, bon, comme le démontre le film, c'est quelque chose de déjà très ancien, enfin qui s'amplifie au cours des années, mais des mécanismes qui sont à l'œuvre, on va dire, au milieu des années 80, le film l'explique pourquoi, historiquement, comment ça fonctionne, etc., les mécanismes. Voilà, on démarre et on finit sur ce film, étant donné que la crise sanitaire révèle quoi ? Les difficultés de l'hôpital public en France, qu'on connaît aussi depuis des années, mais qui sont vraiment mis en exergue, et ces difficultés de l'hôpital sont différentes. Immédiatement lié au déficit public, au manque de financement des États et donc à l'évasion fiscale. Donc pour moi, c'était vraiment un outil très très concret pour démarrer le film et ancrer le film dans la réalité et faire comprendre que l'évasion fiscale a des répercussions extrêmement pratiques, concrètes dans la vie de chacun de nous, quoi. Nous, on essaie de décrire des mécanismes et de pointer les responsabilités politiques. C'est très important de faire l'un et l'autre, de dire voilà comment ça se passe, mais voilà pourquoi ça continue à se passer de cette façon-là. Donc il y a des responsabilités politiques et elles sont à tous les échelons, on va dire, du pouvoir et que ce soit national, supranational, européen ou mondial. Donc évidemment, ça rend le récit du film un peu complexe parce qu'il faut monter les étages, il faut essayer de faire comprendre comment ça fonctionne. Mais le principe elle-même, c'est une sorte de jeu de dupe aujourd'hui pour moi où on fait croire réellement qu'on fait quelque chose, qu'on agit, qu'on met en œuvre des réformes. Or, d'une certaine manière, les fraudeurs ont toujours quelques trains d'avance, donc anticipent les réformes, font du lobbying, puisqu'une partie de l'argent qui est détourné par l'évasion fiscale est réinvesti dans des opérations d'influence quand même auprès des parlementaires, que ce soit français, européens, etc., pour que la prochaine loi un peu contraignante, soit le moins contraignante possible, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi je constate que juste il y a trois jours, au cours d'une interview donnée par le président de la République en marge de la COP27, là, il dit « moi je ne peux pas taxer Total, bon, la question des super bénéfices, etc. puisque Total ne fait pas de bénéfices en France, donc moi je ne peux pas taxer Total ». Il dit ça comme ça devant le propre Français, devant les citoyens. Donc moi je pense qu'à un moment donné, là on a vraiment passé la frontière, on ne peut plus y croire, c'est plus possible. C'est vraiment un foutage de gueule, quoi. Parce que lui sait très bien que Total ne déclare pas ses bénéfices en France et qu'il utilise tous les moyens fiscaux à sa disposition de multinationales pour externaliser les bénéfices. Et Total a 350 stations-service en France. La France est le principal pays dans lequel Total vend son essence. Ils font du chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires considérable en France. Le problème, c'est que les bénéfices partent ailleurs. Et si le président de la République, les yeux dans les yeux, vous dit « moi, je ne peux pas taxer Total parce qu'il ne fait pas de bénéfices en France », je suis désolé, c'est un mensonge incroyable. Ou alors ce type est totalement naïf, et là on est vraiment dans la merde, mais la réalité c'est qu'il n'est pas naïf du tout. C'est qu'il défend parfaitement le système financier qui fait que les actionnaires de Total, qui aujourd'hui pour la plupart sont étrangers, il faut le reconnaître, bénéficient du fait que Total ne payera pas d'impôts sur les profits réels qu'il réalise en France. Mais enfin, la réalité c'est ça, c'est que ce discours-là, pour moi, marque une frontière entre un pouvoir politique qui prend en compte vraiment ces questions-là, et un pouvoir politique qui essaie de les masquer et qui ment aux gens sur la réalité du phénomène. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans le mensonge. Pour moi, on est vraiment dans le mensonge. Ce qui nous intéresse, c'est les principes, c'est pas de multiplier les exemples, parce que bah, les exemples, il suffit de regarder autour de nous, Total, McDo, Google, Ikea, etc., enfin Danone, enfin tout le monde le fait, quoi. Mais c'est de comprendre comment ça se passe et depuis combien de temps que ça se passe de cette manière-là. On essaie d'avoir de l'humour, que ce film résonne quand même aussi avec une certaine ironie. C'est pas du tout un cours universitaire, je suis pas en train de faire un cours, je suis en train de créer une certaine connivence aussi avec les spectateurs. Et l'humour apporte cette connivence-là et effectivement, comme tout ce qu'on révèle, entre guillemets, en tout cas, tout ce qu'on exprime est quand même assez difficile, un peu lourd. Et ben, l'humour, ça aide à faire passer aussi, voilà. Et, c'est un outil. Voilà, pour moi, c'est un outil. On avait fait exactement la même chose dans les Mouches de Garde. Moi, j'aime bien me marrer et j'aime bien aussi utiliser l'humour. En France, il y a un secret fiscal. Et ça, on ne passe pas au-dessus. Donc c'est une partie aussi, cette façon de ne jamais rendre publique la fraude ou à quelques très rares occasions, parce que même judiciairement aujourd'hui, il y a une convention judiciaire d'intérêt public qui fait qu'il n'y a pas vraiment de procès public, il n'y a pas de condamnation, et il y a une tractation entre les accusés et le parquet qui détermine le montant de ce qu'on va payer, etc., dans un cadre absolument opaque et sans publicité. Le secret fiscal, voilà, est une manière de ne pas avoir accès à tout ça. Et on ne connaît pas le montant du redressement. On ne sait pas qui a fraudé, etc., que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Il n'y a pas de publicité. Il y a à peu près aujourd'hui, on va dire, entre 8 et 11 millions, ça dépend des milliards de redressements fiscaux, entre guillemets, c'est-à-dire redressement plus pénalité. Il y a des statistiques, hein, qui, on sait combien c'est en 2019, 2018, etc., les années, mais on ne sait pas la nature, on ne sait pas qui, on ne sait pas quelle fraction de la population est contrôlée, etc. Tout ça, ça reste largement dans une forme de secret. Donc on n'a pas accès à ça. En off, des gens m'ont parlé, voilà. Des gens de chez Tracfin, des gens des impôts, sans nécessairement révéler des noms, mais voilà, en mettant un peu plus de contenu et plus de précision sur tout ça, notamment, voilà, j'ai eu deux personnes de Tracfin qui ont souhaité rester anonymes, évidemment, mais voilà, m'ont quand même donné une image assez précise de ces mécanismes et des acteurs de l'évasion fiscale. Pour le reste, ce qu'on sait de tout ça, c'est évidemment à travers les scandales, les leaks, les fameuses leaks révélés par les journalistes, la plupart du temps, des lanceurs d'alerte avec un travail journalistique derrière, qui sont souvent très complexes, très techniques. Il faut beaucoup de monde pour manipuler tous ces papiers qui sortent, etc., en sortir de la substance et puis essayer de faire comprendre au grand public ce qu'il en est. Donc le film, d'emblée, pour nous, ce n'était pas un film de révélation. On ne cherchait pas à aller chercher une nouvelle affaire ou quoi que ce soit. Encore une fois, moi, je voulais montrer les mécanismes et les responsabilités politiques. Et il y avait suffisamment de scandales déjà sur la table, de journalistes qui avaient fait le travail pour que moi, je m'en saisisse. Et qu'à travers ces exemples donnés par les scandales, voilà, trouver les exemples qui me permettaient de décrire la situation d'une façon assez large. Donc voilà, nous, notre objectif, ce n'était pas de pointer le doigt sur telle ou telle personne. Quand j'utilise des exemples, j'utilise des exemples très connus, très célèbres, au contraire, pour montrer comment ça résonne dans les dispositifs. Si je parle de Balkany, c'est pour montrer qu'il était dans les Panama Papers et comment les sociétés écrans, ils faisaient usage des sociétés écrans. Quand je parle de Cahuzac, j'en parle au moment où on parle du voyage de l'argent à travers les banques et les systèmes bancaires. Ben, celui-là, c'est intéressant de voir comment l'argent voyage. Lui, c'est intéressant de voir la mosaïque des sociétés écrans et comment on dissimule les avoirs. Voilà, bon. Mais je cite des entreprises comme Kering, par exemple, dans la fin du film, parce que c'est une entreprise très connue, française, l'un des plus grandes fortunes françaises, et que cet exemple est connu. L'affaire a été jugée déjà en Italie et en France. Moi, je sais que dans les Nouveaux Chiens Gardes, on nous a beaucoup reproché de nommer des gens, de dire et de montrer un tel ou un tel. Et là, dans ce cadre-là, moi, je disais, mais celui qui ne nomme personne épargne tout le monde. Moi, je montre des gens parce qu'ils ont des places particulières dans un dispositif. Je ne les accuse pas d'être ou de porter la barbe ou je ne sais pas quoi. Je leur dis, voilà, vous êtes vous, là, chef de rédaction de tel journal, vous agissez comme ça, vous avez dit ça et ça et ça. Et c'est normal que je parle de vous. C'était le sujet du film. Là, mon sujet, ce n'était pas d'aller désigner des responsables, c'était de montrer des mécanismes, encore une fois. Non, que vous dire d'autre sur le film, ben voilà, il sort le 7 décembre. On espère qu'à travers ces avant-premières, ces festivals, etc., qu'il y aura une forme de bouche à oreille qui va s'enclencher parce que. On ne va pas faire évidemment l'ouverture du journal de TF1. On sait qu'il n'y aura pas d'article en Libération. Enfin, on sait déjà que enfin, voilà, une partie de l'établissement médiatico-économico-politique ne va pas en faire la publicité. Donc le seul usage qu'on va avoir, bah, c'est les cinémas indépendants déjà, parce qu'on sait qu'on ne sera pas dans les circuits Pathé Gaumont, mais MK2. Et la capacité des gens à sortir les trompettes, les tambours, à faire parler du film. Et les gens comme vous, les journalistes encore indépendants, enfin, ou qui ont encore de l'indépendance de leur rédaction, parce qu'il y en a, hein, évidemment, il y en a, et qui combattent tous les jours pour essayer de produire une information de qualité. Hein. Moi, je ne mets pas tous les journalistes dans le même panier, hein, loin de là. Au contraire, et ben voilà, on espère qu'il y aura suffisamment de choses qui vont circuler, d'informations qui vont circuler autour du film pour que, ben vous le savez très bien, quand un film il sort en salle, si la première semaine il fait pas suffisamment d'entrées, ben voilà, il part aux oubliettes. Le film est quand même un vrai outil sérieux, fiable, que des associations comme Oxfam, ATTAC, la Ligue des droits de l'homme, Anticor, le syndicat de la magistrature, etc., aient décidé de soutenir officiellement le film. Pour moi, c'est vraiment important. D'abord, c'est important parce qu'ils vont en parler à leurs adhérents, à leurs sympathisants. Et puis parce que voilà, ils disent pour nous c'est un outil, on va s'en saisir et on va l'utiliser quoi.
Quelle plus grande difficulté vous avez rencontrée ?
Vraiment la plus grande difficulté, ce qui a pris beaucoup de temps, hein, le film il a pris presque 2 ans et demi, voire 3 ans à se faire. Alors bah, on continue et puis il y a eu le Covid qui est arrivé qui a beaucoup freiné les choses. Enfin voilà, ça a été un gros coup de frein. La plus grande difficulté, bah, voilà, c'est de trouver ce récit. De faire en sorte que ce film n'ennuie pas ceux qui savent et ne mette pas à la porte ceux qui ne savent pas. D'essayer d'être toujours sur une ligne de crête parce que malgré tout, on sait que les gens qui vont... Le public prioritaire de ce genre de film, ce sont des gens déjà convaincus d'une certaine manière. Hein, le public engagé, un peu militant dans les associations, etc. Donc il va trouver une sorte de confirmation de quelque chose qu'il connaît déjà. Donc il ne faut pas les ennuyer, c'est-à-dire il faut malgré tout trouver un film qui leur apporte quelque chose, un supplément d'information, etc., une forme intéressante et un récit intéressant. Et en même temps, il n'y a personne au guichet du cinéma qui dit toi, si tu ne connais pas ou si tu n'as pas lu Zucman, tu ne rentres pas dans la salle. Il faut que ça soit accessible à tout le monde. C'est un cinéma, par définition, pour moi, c'est universel. Il faut que ça s'adresse à tous les citoyens. Donc il faut aussi trouver un récit, une histoire qui ne laisse pas à la porte ceux qui ne savent pas, qui permette à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'évasion fiscale, qui ne sait pas ce que c'est, qui ne connaît pas les mécanismes, qui n'est pas féru d'économie ou d'économie politique, de s'y retrouver comme citoyen, comme simple citoyen, voilà, usager des services publics, héritier de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, qui consacre 2 articles à l'impôt. Donc l'impôt est central dans notre société, à la fois comme outil de redistribution, mais de structuration, de croissance, de bien-être, de progrès social et humain, etc. Donc notre société est basée sur l'impôt, sur le fait qu'une partie des revenus reviennent au pot commun et permettent aux générations suivantes, etc., les présentes, de se développer, de vivre correctement et de permettre d'avoir un État redistributeur, égalitaire, etc. Bon. Et ça, c'est extrêmement attaqué. Cette notion de l'impôt, elle est attaquée de plein de manières. Aujourd'hui, mais elle est attaquée par le fait que beaucoup de gens se soustraient à cette obligation qui devrait s'imposer à l'ensemble des citoyens à la hauteur de leurs moyens, comme dit l'article. Voilà, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais pour dire que pour moi, le sujet est universel et ça doit pouvoir accueillir tous les citoyens. Donc la difficulté, la vraie difficulté, ça a été de trouver ce récit. Qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils ne vont pas comprendre? Est-ce que je dis trop ou pas? Alors évidemment, un film comme celui-là, moi je pense que... selon le degré peut-être d'éducation, de connaissance, les gens ne comprennent pas forcément tout, mais à la fin, ils ont une image, voilà, une image complète. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est le but ultime quand même de la démonstration, c'est que l'évasion fiscale, ce n'est pas un défaut du système néolibéral, ce n'est pas un effet pervers qu'on pourrait redresser avec une petite mesurette, c'est vraiment un rouage important, essentiel. Il y en a d'autres, hein, mais de la machinerie néolibérale et de la croissance des inégalités, de l'enrichissement extraordinaire de certains autres, de la puissance des multinationales et de la montée en puissance des multinationales, qui sont des géants économiques, on le dit aujourd'hui, avec des fortunes accumulées équivalent au PIB de pays très développés encore aujourd'hui, donc avec une puissance de lobbying considérable aussi, hein, d'investir le champ politique, d'investir les décisions démocratiques à leur profit. On laisse ces géants-là agir. Et aujourd'hui, on voit dans les récits de science-fiction que les auteurs de science-fiction imaginent un monde où les multinationales posséderaient des villes entières, auraient des pays à leur nom, etc. Enfin voilà, on sent bien que ces puissances énormes qu'on est en train de constituer économiques sont devenues des puissances politiques. Et ça, l'évasion fiscale est l'un des outils majeurs de cette puissance. Et quand Emmanuel Macron dit « je ne peux pas taxer Total », il s'agenouille devant cette puissance. Moi je le dis, il s'agenouille, vraiment. Et c'est à genoux au nom de tous les Français. Et il va falloir qu'on comprenne ça maintenant, quoi. Vraiment, quoi.
Quelles sont les raisons?
Les raisons, moi, je les exprime à la fin du film. C'est peut-être la partie la plus personnelle, parce que je pense que tout au long du film, je donne la parole à ceux qui savent. Moi, je ne suis pas le spécialiste, hein. Moi, je suis un documentariste. Hein. Donc, je donne la parole à ceux qui savent, qui ont analysé le problème, les ONG, les universitaires, les économistes, un certain nombre de femmes ou d'hommes politiques qui ont conscience de ces phénomènes et essaient d'agir à leur échelle. À la fin du film, j'ai peut-être ma vision plus personnelle, et je l'exprime à travers une déclaration d'Alain Delon, le philosophe qui travaille sur les paradis fiscaux. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une basse démocratie, moi j'appelle de basse intensité, et que le pouvoir appartient à une oligarchie. C'est parce que, depuis des années, c'est cette oligarchie qui est au pouvoir. Alors, elle est peut-être difficile à nommer, elle a peut-être un périmètre assez difficile à saisir, parce qu'elle est globalement transnationale maintenant, mais elle existe. Et quand, moi je me souviens, notre ancien président de la République, dans un de ses discours de campagne, avait affirmé « mon ennemi, c'est la finance ». Bah oui, on est d'accord, t'as dit quelque chose de tout à fait exact. Mais que dans la même phrase, il disait « elle n'a pas de nom, elle ne vote pas, etc. etc. » Ben si, elle a un nom, elle vote, et en tout cas, elle agit sur les votes des citoyens, etc. Donc dans la même déclaration, il disait le vrai et le faux. Et pour en finir, donc moi je dis, voilà, il y a une forme d'oligarchie qui a pris le pouvoir depuis des années et qui sert les intérêts de sa propre classe. Il y a 3 à 4 jours, ça ne vous a pas échappé que notre ministre de la Transition écologique fait l'affaire d'un scandale, puisque le magazine Disclose révèle que son père avait créé une société à portefeuille pour y abonder une certaine somme d'argent, 1,2 million d'euros, à travers 3 fonds d'investissement spéculatifs logés dans des paradis fiscaux. Voilà, ce qui est parfaitement légal, c'est juste un mécanisme, on va dire, d'optimisation fiscale que les plus riches utilisent pour payer moins d'impôts sur la succession. Qu'elle ne dénonce pas le conflit d'intérêts qui est le sien comme ministre de la Transition écologique, censé nous faire passer du pétrole, nous faire oublier le pétrole d'une certaine manière, faire en sorte qu'on se passe du pétrole, et la fille d'un des très hauts cadres dirigeants de la deuxième compagnie pétrolière française, Perenco, et qu'elle ne révèle pas ce conflit d'intérêts, alors qu'il y a quand même des lois, la Haute Autorité pour la Vie publique, Transparence de la Vie publique, l'obligerait quand même à se faire. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quelqu'un qui fait vraiment partie de cette oligarchie, par sa famille, par ses origines sociales, par son parcours professionnel, qui passe d'une entreprise privée au public et inversement, etc., qui utilise tous les outils fiscaux de l'évasion fiscale, enfin, qui sont les mêmes. Même si elle est en droit de dire « mais non, mais c'est légal, l'enjeu de la société est enregistrée en France, oui, mais le compte en banque est au Luxembourg, la société est enregistrée en France, oui, mais les fonds spéculatifs, ils sont chacun ils sont issus d'un paradis fiscal. Pourquoi ?» Voilà. Donc on a quand même une connexion directe entre un représentant de l'oligarchie, comme l'est Emmanuel Macron à mon sens, et ses connexions avec les outils de l'évasion fiscale. Donc je pense qu'on est en droit de dire si l'évasion fiscale perdure, c'est parce qu'elle sert l'oligarchie, c'est tout. On pourra appeler ça un raccourci, mais je pense qu'à un moment donné, les raccourcis, ils sont réels, ils sont vrais, les connexions sont vraies, c'est pas une théorie du complot, quoi. C'est juste un état du monde. Et ça s'explique historiquement, et ça a été déjà démontré par beaucoup de gens. Mais il faut arriver à le dire, et c'est vrai que ça peut paraître un peu choquant de l'exprimer comme ça, mais pour moi, c'est une réalité. Quand les spectateurs, à l'issue du film, disent « mais quoi faire ?», je dis « maintenant, la question, c'est pas quoi faire, c'est comment faire ?» Comment faire pour que tous ces verrous politiques, on les surmonte, comment faire pour que nous, citoyens, on reprenne un peu la main sur notre destin de citoyen, quoi. Et il serait temps. Donc, je renvoie les gens à eux-mêmes en disant « les gars, engagez-vous, vous faites quelque chose, bougez-vous les fesses, donnez du temps. » Voilà. Et il n'y a qu'ensemble qu'on ira récupérer chaque année 100 milliards. Il n'y a qu'ensemble. Et on en a besoin. L'impôt sert à ça, ça redistribue, ça lisse les inégalités. Et quand aujourd'hui, le maire, Macron dit « il faut baisser les impôts », ils pèsent les impôts des plus riches, parce que déjà la moitié des foyers fiscaux français n'en payent pas d'impôts sur les revenus. Donc baisser les impôts, ça sert à quoi pour eux? Baisser la TVA, baisser la CSG. Parce que ça, c'est aussi des impôts. C'est des impôts que les classes les plus pauvres payent sur la totalité de ce qu'ils dépensent et de ce qu'ils gagnent, puisqu'ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. C'est un impôt qui paye en totalité. Mais ça, on ne parle jamais de la TVA. Quand on parle des impôts, on parle des impôts sur le revenu, sur le capital, sur les actions, etc. Mais pas sur ces impôts-là. Et aujourd'hui, la CSG, c'est 8%. C'est un impôt qui n'est pas du tout progressif. Bon, il y a des taux en fonction. Les retraités payent un peu moins à 6,25. Les salaires, c'est machin. Les prestations chômage, mais on paye de la CSG sur les prestations chômage, etc. C'est un impôt qui n'est pas du tout progressif. C'est un taux fixe. Voilà. Donc même l'idée de progressivité de l'impôt, elle disparaît de plus en plus. Quand on met une flat tax, on paye sur les revenus du capitaux. Comment l'effet l'année suivante? Explosion des dividendes. Donc c'est bien que c'est un impôt qui a servi aux plus riches à s'enrichir encore plus. France Stratégique et l'organisme officiel d'évaluation des politiques publiques publient 3 rapports successifs en disant la flat tax n'a pas servi l'économie, ça a permis aux actionnaires de s'enrichir de plus en plus. On oppose souvent un discours comme quoi oui, mais les actionnaires c'est tout le monde, les petits actionnaires, les machins, etc. 62% des actions sont détenues par les 0,001% les plus riches. Et si vous ramenez ça au 0,1%, c'est 92% des actions. Le petit porteur, il n'existe pas. C'est pas vrai. Donc voilà, il faut aussi combattre tout ce discours comme ça qui nous est déversé en permanence à travers des formules des fois beaucoup plus schématiques que ça, comme le premier de cordée, le ruissellement, quand le gros maigrit, le maigre meurt. Enfin, toutes ces formules comme ça, comme là, trop d'impôts tue l'impôt. Enfin voilà. Mais qu'on entend en permanence, enfin, et notamment dans les chaînes d'information continue.
Vous avez parlé des citoyens. Concrètement, quels conseils vous pourriez donner ?
Je dis aux citoyens, venez voir le film et essayez de comprendre à quel point vous souffrez et pourquoi vous souffrez. Vous allez comprendre qu'est-ce qui ne va pas, quoi. Enfin, en tout cas, une partie de l'explication. Hein. Je ne considère pas que c'est la totalité de l'explication, évidemment, mais c'en est une partie. Et elle est importante. Voilà, j'ai envie de dire, battez-vous, engagez-vous, révoltez-vous. Nous, avec Bertrand, moi, je prends l'exemple du ballon. On met la pression dans le ballon, mais on sait très bien que le film ne va rien changer en soi. Voilà. C'est, aujourd'hui, on met des gilets jaunes dans la rue pendant un an, ça ne change pas. Voilà, un mouvement social comme il n'y a jamais eu depuis des années, ça ne change pas. Donc ce n'est pas un film qui va changer les choses, mais nous, on met de la pression. Et puis un jour, peut-être le ballon, la pression sera suffisamment forte pour que vraiment ça pète. Voilà. Je n'ai pas une vision eschatologique de la révolution, mais je pense qu'à un moment donné, on est face à un mur extrêmement puissant et il va falloir pousser fort quoi, pour le faire tomber. Voilà, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Voilà, donc j'espère, à travers les films qu'on peut faire, que Bertrand fait sur les violences policières, par exemple, qu'il a produit, voilà, que ces films se diffusent un peu dans la conscience des gens, dans l'espace public, les font réfléchir, et à un moment donné, que tout ça se cumule et fasse une action.